7h29, Québec a présenté hier son projet de règlement concernant les chiens. C'était très attendu. Et plusieurs questions découlent de ces règlements qui ont été déposés. J'en parle avec la ministre responsable de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Madame Guilbeault, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Première question, avant de regarder l'application quand on est propriétaire de chien, puis qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de race qui seront bannies et n'importe qui au Québec va pouvoir acheter n'importe quel chien.
Il n'y a pas de races qui sont bannies, effectivement, parce que c'est très difficile, je l'ai expliqué hier, là, c'est très difficile d'appliquer une telle mesure là, d'exclure ou de bannir ou d'interdire une race de chien. Parce que l'identification adéquate d'une race de chien pose beaucoup de défis. C'est difficile d'établir, hors de tout doute, la race d'un chien. Il y a souvent des croisements, donc établir la proportion des races dans un croisement. Souvent, il faut recourir à l'ADN, et même là, c'est compliqué. Puis on parlait à des policiers, faire la preuve d'une race devant les tribunaux pour une éventuelle poursuite. C'est très compliqué aussi. On a regardé ce qui s'est fait un petit peu ailleurs aussi, puis ça s'avère compliqué partout. Donc, okay, plutôt que d'y aller avec l'interdiction d'une race, on a préféré un encadrement uniforme pour tous les chiens, incluant bien sûr les chiens dangereux.
OK, mais ma question plus fondamentale, quelqu'un qui a des antécédents criminels, quelqu'un qui a des antécédents de violence, peut s'acheter n'importe quel chien. Quelqu'un qui a des antécédents criminels, quand va venir le moment, par exemple, pour lui de vouloir légalement acheter une arme à feu, il y a des restrictions, il y a des contrôles qui sont faits. Pourquoi on permet à n'importe qui d'acheter n'importe quoi?
Mais par rapport au chien, à partir du moment où une personne possède un chien et que ce chien-là a un comportement dangereux, dans la séquence, là, maintenant, dans une municipalité, à partir du moment où un chien est considéré poser un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité va avoir le pouvoir d'exiger que son propriétaire soumette son chien à l'examen d'un vétérinaire. Et sur la base des conclusions du vétérinaire, la ville dispose d'une certaine latitude pour poser des actions. Et si les circonstances le justifient, c'est la façon dont on l'a énoncé dans le règlement. Donc, si la municipalité considère que c'est justifié de le faire, elle peut exiger que la personne, l'homme ou la femme, se départisse du chien ou de tout autre chien et même lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien.
OK, mais je veux juste comprendre, à quel moment on détermine que le chien est dangereux ou a un comportement dangereux?
Comme je vous dis, ça part finalement du principe que la municipalité peut soupçonner qu'un chien pose un risque pour la santé et la sécurité publique. Ça peut être, par exemple, l'inspecteur ou l'enquêteur de la ville lui-même qui observe un comportement, mais ce sera souvent, on peut le penser, des signalements ou des dénonciations. Si vous avez un voisin, vous, qui arrive, qui emménage chez vous ou dans votre rue, puis vous voyez qu'il y a un chien qui a l'air douteux, bien, vous appelez votre ville, vous dites tel chien à telle adresse. Et là, la ville peut aller vérifier. Puis si effectivement, sur la base des témoignages ou de ce qu'ils observent, considère que peut-être qu'il y a quelque chose qui peut poser un risque, bien, la ville peut dire au propriétaire, je veux que tu fasses examiner ton chien. Et ensuite de ça, sur la base des conclusions du vétérinaire, si effectivement il semble y avoir un risque, la ville peut imposer un certain nombre de conditions à la personne.
OK, mais là,
le fait de devoir se départir du chien, okay, mais pas uniquement ça.
Là. OK, mais de façon pratique, là, Montréal, ça va, là, puis dans les grandes villes, ça peut aller parce qu'il y a déjà des équipes qui existent. Mais vous faites quoi aux municipalités? Moi, je suis maire là, d'une municipalité de 2000, 3000 personnes, là. À qui je vais confier cette responsabilité-là de s'occuper de l'application du règlement sur les chiens?
Et les personnes peuvent confier, les municipalités vont confier cette responsabilité-là, soit une personne de leur équipe, donc de leur fonction publique municipale, évidemment dans des petites villes, c'est pas une grosse fonction publique, donc peuvent désigner une personne à même leur équipe. Les petites villes aussi peuvent se regrouper, par exemple, 2-3 villes ou villages, peuvent dire on se met tous ensemble, puis on fournit une ressource, là, on se la partage ou en tout cas on se l'alterne, et il y aura quelqu'un qui va être chargé de ça. Il faut comprendre aussi que c'est sûr que dans une toute petite ville où il n'y a pas un grand nombre d'habitants, à un moment donné, tu finis par connaître ton monde, puis qui a un chien, puis où, parce qu'il faut se rappeler aussi que le règlement fait en sorte que maintenant, t'es obligé, partout, dans toutes les municipalités, d'enregistrer ton chien. Donc, moi, si j'habite dans une municipalité, là, à partir de l'entrée en vigueur du règlement, les gens qui ont déjà un chien qui n'est pas enregistré vont avoir 3 mois. Donc, vont se présenter, vont enregistrer le chien. Donc, les petites municipalités vont déjà avoir un bon portrait de qui a des chiens où. Et ça se fait assez vite, là, un chien qui montre les dents, qui est dangereux, qui fait peur aux enfants et tout ça. S'il y a un signalement, puis là, les villes vont pouvoir intervenir.
OK, mais on a vu la gestion de cas récents. Là, cette femme qui faisait du jogging qui a été attaquée par un chien. La municipalité avait un contrat avec une société, un organisme. Là, on ne savait pas quoi faire avec le chien. Est-ce qu'on le garde, on ne le garde pas? Comment ça se fait qu'il y a eu des signalements dans le passé? On a changé d'organisme, ça ne s'est pas rendu. Les petites municipalités, là, ils vont encore donner des contrats à des organismes comme ça, non?
Bien, ce sera à elles de voir la façon dont elles veulent procéder. La ville peut prendre une personne à même ses ressources, peut, oui, se regrouper avec d'autres, peut désigner une compagnie ou en tout cas un fournisseur qui va être responsable de l'application du règlement. Mais la ville de Potton à laquelle vous faites référence est un exemple probant d'une situation où justement il y avait une confusion parce que la ville n'avait pas de règlement par rapport aux chiens. Et moi, j'ai entendu des commentaires hier du maire, d'ailleurs, qui trouvait que c'était une bonne nouvelle que ce règlement parce que... tout le monde était scandalisé de cette histoire-là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que vous voyez dans les faits, aujourd'hui, le propriétaire de ces chiens-là devra enregistrer son chien et à partir du moment où quelqu'un soupçonnera qu'ils peuvent poser un risque, la ville aura des moyens pour intervenir, aurait pu exiger que le propriétaire ou les propriétaires, je sais pas s'il y avait une seule personne ou plusieurs, mais soumettent les chiens à l'examen d'un vétérinaire, puis il aurait pu peut-être avoir des moyens d'intervention pour exiger, pour imposer certaines mesures.
OK, mais là, juste comprendre quelque chose de bien clair, là. Si le vétérinaire, après l'examen du chien, considère que c'est un chien qui est potentiellement dangereux, on va le faire euthanasier?
Ça dépend. L'euthanasie est automatique quand un chien a causé une blessure grave ou a causé la mort d'un être humain.
Okay.
Ça, c'est automatique, l'euthanasie automatique. Pour ce qui est des chiens dangereux, donc si la ville reçoit un rapport du vétérinaire à propos d'un chien et considère qu'il y a là matière à le considérer dangereux, elle peut lui donner le statut de chien potentiellement dangereux. Et quand un chien est déclaré potentiellement dangereux, c'est là que c'est intéressant, c'est assorti d'un certain nombre de conditions, de mesures de restriction qui sont imposées. C'est pas un choix, là, c'est imposé. Donc, le chien doit être vacciné contre la rage, micropucé, stérilisé. Il doit être gardé absolument en tout temps sur le terrain privé de la personne qu'il possède, qui doit être clôturé d'une manière telle qu'on est sûr que le chien peut pas sortir là, du terrain privé. Il doit y avoir en tout temps une affiche sur la maison qui indique qu'il y a un chien dangereux qui vit là. Il doit porter en tout temps un licou ou une muselière. La laisse peut pas excéder 1,25 mètres. Il peut pas être en présence d'un enfant de 10 ans et moins sans qu'il y ait un adulte dans la pièce. Donc, vous voyez qu'il y a des conditions très strictes et une personne qui néglige de se conformer à ce qui est prévu dans le règlement peut se voir imposer des contraventions et des amendes très salées qui peuvent aller jusqu'à 20 000 $ en cas de récidive.
OK, mais...
Pour pénal aussi, là, c'est dissuasif.
OK, mais est-ce que je comprends que, mettons que le chien est considéré comme dangereux, je peux ne pas le remettre au propriétaire. Le propriétaire peut se voir interdire de posséder des chiens.
Oui, ça fait partie de ce que je vous ai énuméré, c'est vraiment les conditions automatiques qui viennent avec le statut de chien potentiellement dangereux.
Okay, mais
la ville a une certaine latitude.
OK, mais mettons, là, je vais prendre un exemple bien clair. Là, j'ai un taré qui est propriétaire d'un pitbull. Je porte plainte, l'inspecteur vient, on l'envoie chez le vétérinaire. Le vétérinaire pense que le chien est dangereux. Est-ce que le pitbull retourne chez le taré ou si le pitbull, par exemple, on va le mettre, on va le confier à un autre organisme?
C'est la ville qui va pouvoir déterminer quelles mesures elle choisit de mettre en place. Elle peut choisir de déclarer le chien potentiellement dangereux avec les conditions que je viens de vous détailler. Elle peut exiger du propriétaire qu'il se départisse du chien. Elle peut aller jusqu'à lui interdire de posséder d'autres chiens. Ça, c'est de ce qu'on parlait au début, là.
Okay.
Elle peut le faire. Peut même demander l'euthanasie. Si elle estime que les circonstances le justifient, une ville peut demander l'euthanasie. Même s'il n'y a pas eu blessure grave ou mort d'un être humain.
Okay.
Blessure grave ou mort, l'euthanasie est automatique, mais l'euthanasie demeure aussi une option dans des cas où vraiment la ville jugerait que même s'il n'y a pas eu blessure grave ou mort d'un être humain, la dangerosité est telle que l'euthanasie serait la solution. Il y a une latitude quand même dans les pouvoirs d'intervention de la ville et il y a une variété dans ses pouvoirs d'intervention, dans les moyens d'intervention et c'est ce qui est intéressant selon nous dans le règlement.
OK. Si la personne déménage, change de ville, il arrive quoi?
Il arrive absolument rien en ce qui concerne le chien. Si, par exemple, un chien a acquis le statut de chien potentiellement dangereux à Trois-Rivières, la personne déménage sur la Côte-Nord, le statut demeure.
OK, mais comment l'information va circuler entre les villes?
Bien, là, c'est sûr qu'il y a une question de bonne foi de la personne. Si, par exemple, la personne enregistrée... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la personne, par exemple, s'est enregistrée à Trois-Rivières.
Madame Guilbeault, les gens mentent sur le type de chien qu'ils ont, puis là, vous misez sur la bonne foi?
Bien, c'est sûr que les comment dire, les municipalités peuvent vérifier entre elles si tel chien a déjà été déclaré dangereux ailleurs. Ça, ça se fait. Puis l'information avec là va exister. Le fait de devoir enregistrer systématiquement ton chien, ça permet entre autres de documenter la problématique un peu partout au Québec, alors qu'en ce moment, on sait même pas exactement quel chien est où. Mais donc, c'est ça. Alors, le statut prévaut partout et donc si par exemple la personne arrive à déménager sur la Côte-Nord, donc là elle est sur la Côte-Nord, prenons l'exemple qu'elle veut pas le dire, elle va enregistrer son chien tout bonnement, puis okay. Elle dit pas qu'il a été déclaré potentiellement dangereux, mais effectivement c'est une situation qui pourrait exister, mais on peut penser que rapidement il va peut-être y avoir un signalement, il va y avoir une situation qui fait que les gens vont se rendre compte qu'il y a un chien bizarre qui est arrivé dans l'entourage.
Mais non, mais Mme Guilbeault, là, c'est, la personne peut déménager 4 fois, on va attendre à chaque fois qu'il y a un comportement bizarre, à chaque fois on va appeler la municipalité. À chaque fois, on va le faire examiner. On va dire c'est un chien dangereux. Il redéménage, s'en va ailleurs. Vous me permettez d'être moment, sceptique sur ça?
Ben, écoutez, il y a une pré-publication en ce moment de 45 jours. Vous voyez, nous, on est arrivé avec une très bonne barre. Je considère que ce règlement-là, contrairement à l'inaction totale qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, c'est une très bonne base. À date, c'est relativement bien accueilli. Il est publié pendant 45 jours dans la Gazette officielle pour, justement, des commentaires. Si des gens ont des suggestions de modifications, de bonifications, nous, on demeure tout à fait ouvert, puis on s'attend à ce qu'il y en ait. Mais je pense qu'on a une très bonne base, et puis l'idée, c'est qu'il y ait enfin une réglementation de base uniforme partout au Québec. En ce moment, la moitié des villes ont aucun règlement. Donc, okay, ça n'est pas une lacune évidente.
Quand vous me dites bien accueilli, là, les villes se demandent comment on va gérer ça, puis ça va être quoi notre responsabilité? Puis l'Ordre des vétérinaires pose les mêmes maudites questions. À quel moment on signale une morsure? C'est disons qu'il y a beaucoup de questions, mais je comprends que là, vous entrez dans une période de consultation. Avant de vous quitter, ce matin, dans le Journal de Montréal, des allégations de fabrication de preuves qui visent l'UPAC, le numéro 2 serait devenu, aurait viré sa veste et donc aurait présenté, semble-t-il, un témoignage concernant des pratiques. C'est grave, là, quand on laisse sous-entendre que le numéro 2 de l'UPAC dit qu'à l'intérieur, on fabriquait des preuves.
Bien, j'ai lu comme vous l'article. Évidemment, c'est toujours délicat. Ces articles-là, ces informations-là, on ne peut pas les commenter là, pour des raisons évidentes d'enquête et tout ça, d'accusations éventuelles. Mais ce que je peux dire là-dessus et ce que je dis toujours, c'est que j'ai bien hâte. On a tous hâte, mais moi, la première, que les enquêtes aboutissent à l'UPAC. L'UPAC a vécu des moments difficiles, une crise de confiance dans les dernières années, que ce soit à tort ou à raison, mais il y a eu une certaine crise de confiance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre premier projet de loi était le projet de loi 1, qui visait le mode de nomination du commissaire de l'UPAC. Projet de loi 1 qui a été adopté hier, d'ailleurs. Je pense qu'on peut se permettre de le souligner après les nombreuses heures qu'on a passées là-dessus. Et donc, on va pouvoir nommer un nouveau commissaire à l'UPAC officiellement. Ça, c'est une bonne chose. Donc, lui va pouvoir partir avec son nouveau mandat de 7 ans, puis peut-être implanter une nouvelle façon de faire. Mais il y a aussi le rapport du comité de surveillance du PAC qui s'en vient. Moi, je l'attends fin mai, début juin. J'espère que ce rapport-là va nous amener de l'information intéressante sur la façon dont les choses se passent à l'UPAC. Bien sûr, moi, je peux pas les rencontrer directement. Je peux pas.
Non, mais
les enquêtes, vous le savez. Les attentes sont élevées.
La question fondamentale que personne n'ose poser trop, là, ça sert à quoi l'UPAC maintenant? On a-tu vraiment besoin de l'UPAC encore aujourd'hui?
Et moi, je considère que oui, la mission de l'UPAC est très importante. Quand on a créé l'UPAC, je pense que tout le monde était d'accord sur le fait qu'il semble y avoir plusieurs histoires de corruption, fondées ou non, mais il y avait comme un climat, disons, là, qui justifiait la création de l'UPAC. Maintenant, est-ce que l'UPAC, c'est relativement récent, en 2011, ça fait 8 ans, mais quand même, c'est tout a été vite et tout ça. Est-ce que l'UPAC est convenablement outillé? Est-ce que
devraient
être modifiées?
Hey, c'est plus grave que ça, là. On soupçonne l'UPAC d'avoir frémé un député de l'Assemblée nationale. On retire les accusations, y poursuit l'UPAC. D'autres témoins ou d'autres personnes qui ont été accusées qui prétendent la même affaire. Vous avez Nathalie Normandeau qui attend qu'on se décide dans son dossier. Dans le cas de Machuré, ça aboutit jamais. Ça non plus, on pose pas trop de questions. Sérieusement, là, à part d'avoir un titre puis un commissaire puis d'avoir un comité de surveillance, ça sert à quoi, l'UPAC?
Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent puis qu'il y a une impatience à ce qu'on livre des résultats. C'est pour ça que je vous dis, moi, je viens d'arriver, là. Qu'est-ce que je fais? Oui. Je m'assure qu'on puisse modifier le mode de nomination pour qu'au moins on n'ait plus des questionnements, là, qu'il y a pu avoir sur la précédente nomination. Donc, on aura une nomination par l'Assemblée nationale. Et s'il y a d'autres changements à apporter, d'autres ressources à fournir, soyez assurés que je le ferai. Moi, je veux que ça fonctionne, l'UPAC. Et puis, j'étais dans l'opposition, moi, il n'y a pas si longtemps, puis avec ma formation politique, on en a parlé souvent de l'UPAC, du fait que ça semblait pas fonctionner. mentionné qu'il semblait y avoir des problèmes, puis que les enquêtes aboutissent pas et tout ça. Donc, c'est sûr que nous, on veut travailler pour que ça fonctionne. Mais on peut pas, tu sais, je peux pas, moi, directement aller à l'UPAC puis dire, bon, c'est quoi le problème? Il faut que je fonctionne selon les règles. Donc, on a le comité de surveillance. Moi, j'ai rencontré le comité de surveillance rapidement après ma nomination. J'attends leur premier rapport. Et j'espère bien qu'on aura de l'information intéressante là-dedans. Mais sinon, ils font des rapports, eux, ponctuels, réguliers, c'est-à-dire. Et c'est la façon dont on pourra avoir un peu d'informations sur est-ce que oui ou non, l'UPAC est outillé convenablement? Est-ce que c'est le bon monde à la bonne place? Est-ce qu'on a les bons enquêteurs? Est-ce qu'il y a un problème de ressources? Il y a peut-être des problèmes aussi qu'on peut régler qui font en sorte que ça va mieux fonctionner. Il faut donner la chance, mais la première étape, c'est de nommer un nouveau commissaire. Puis je suis bien contente qu'on ait finalement adopté le projet de loi 1 et on pourra nommer tous ensemble le prochain commissaire.
Parfait. Merci, Mme Guilbeault.
Merci à vous.
Au revoir. Bonne journée. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Comment dire? Vous avez vu Ottawa, là? Ils ont voté à l'unanimité une motion pour s'excuser auprès du vice-amiral qu'on a traîné dans la boue pendant 2 ans pour aboutir à rien. Guy Ouellet, ça aboutit à rien. Puis c'était une patente de l'UPAC. Puis là, t'as le numéro 2, pas un enquêteur parmi tant d'autres, le numéro 2 qui serait devenu délateur. Puis là, additionner toutes les études, pas les études, mais les enquêtes qui aboutissent à rien. On voit-tu, on a enlevé le DG de la Sûreté du Québec. On ne sait pas trop pourquoi. Puis si, mettons qu'il ne se passe rien, on va-tu faire une motion à l'Assemblée nationale pour à nouveau s'excuser? Tu sais, il y a des fois, là, on comprend pourquoi les citoyens sont sceptiques devant l'UPAC, devant le DPCP, parce que tu dis, mais pourquoi ça n'aboutit jamais? Point final. 7h45, on est en retard.